Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Des symboles du régime de Bachar al-Assad déboulonnés. Le dictateur syrien a perdu le contrôle d'Alep, deuxième ville de Syrie, à l'issue d'une offensive éclair menée par une coalition de rebelles et de djihadistes.
L'aéroport international d'Alep a été libéré par l'administration militaire et il a été rendu à la propriété révolutionnaire de notre peuple et des familles des zones libérées.
Cette coalition, qui progresse dans le nord, affirme vouloir libérer toute la Syrie, un pays contrôlé en majeure partie par Bachar al-Assad, appuyé par ses alliés. Des avions russes se sont joints ces derniers jours à l'armée syrienne pour mener des frappes sur Idlib et Alep, passées aux mains des rebelles. La République islamique d'Iran a, elle, dépêché à Damas son ministre des Affaires étrangères.
J'ai clairement transmis à Bachar al-Assad le message de résistance et de soutien de la République islamique d'Iran.
La coalition des rebelles et des djihadistes a profité d'une fenêtre de tir favorable. La Russie est mobilisée depuis des mois sur le front ukrainien, tandis que l'Iran et son allié du Hezbollah sont affaiblis au Proche-Orient. Les rebelles, qui seraient soutenus par la Turquie, ont attendu le bon moment pour lancer l'offensive, selon cet opposant syrien.
Il y a un an, ils ont commencé à se mobiliser et à s'entraîner. Mais leur offensive a été retardée par la guerre à Gaza, puis au Liban. Dès qu'il y a eu le cessez-le-feu au Liban, ils ont compris que c'était le bon timing.
Alors l'offensive des rebelles et des djihadistes relance-t-elle une guerre civile jamais vraiment éteinte depuis la révolution avortée de 2011? Cette fois, le régime de Bachar al-Assad peut-il tomber?
Nos trois invités pour ce débat, Leïla Vignal, bonsoir madame. Vous êtes directrice du département de géographie à l'École normale supérieure et spécialiste de la Syrie et du Moyen-Orient. Selon vous, la guerre en Syrie n'a jamais cessé, mais on était depuis 2020 à peu près dans un conflit à bas bruit. C'est aujourd'hui un pays exsangue économiquement et pas seulement aux mains des milices du régime. À côté de vous, Wassim Nasr, journaliste à France 24, chercheur au Soufan Center à New York, spécialiste des mouvements djihadistes. Selon vous, les djihadistes ont profité d'une fenêtre d'opportunités créées par les frappes israéliennes contre les milices chiites en Syrie. Leur but est de renverser Bachar al-Assad. Et Ariane Bonzon, bonsoir madame, journaliste spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient. Selon vous, en regardant la façon dont les assaillants se sont emparés d'Alep en trois jours, c'est évident qu'ils ont bénéficié de l'appui de puissances étrangères, ce qui conduit à se tourner notamment du côté de la Turquie. On y reviendra évidemment, mais d'abord l'acronyme du jour,
HTS. Ou HTC, pour Hayat Tahrir al-Sham, organisation de libération du Levant. C'est donc le groupe rebelle islamiste qui a pris le contrôle d'Alep. On le voit en rouge sur la carte qui va apparaître. HTS était rattaché à Al-Qaïda en Syrie avant de rompre ses liens avec l'organisation islamiste en 2016. Et d'après les observateurs, le mouvement a progressivement basculé du djihad global vers une forme de nationalisme syrien. Wassim Nasr, c'est ce qui le différencie des autres mouvements islamistes ?
C'est exactement, en tout cas, ce qui différencie les mouvements djihadistes, tant qu'on les connaît, Al-Qaïda, État islamique. Et ce qui est intéressant dans ce registre, et c'est pour ça que j'y étais, moi, il y a un peu plus d'un an là-bas, c'est parce qu'on avait des chefs. Donc, Joulani, le chef d'HTC, c'était un ancien de l'État islamique qui a rompu avec Baghdadi, rejoint Al-Qaïda, rompu avec Al-Qaïda et qui combat les deux maintenant. Mm-hmm. Ils ont tué le quatrième calife, par exemple, de l'État islamique. Ils aident d'autres pays contre les djihadistes d'Al-Qaïda. Et il m'a dit lui-même, et son chef religieux à l'époque, qui a été tué par un kamikaze de l'État islamique à cause de tout ça, que le djihad était une erreur, que leur voie est la voie de... Ils s'intéressent à la Syrie, combattre Assad, combattre les Iraniens et les Russes. Ça n'en fait pas des démocrates.
Mais c'est l'instauration de la charia, par exemple, qui
l'a... l'instauration de la charia, bien sûr. C'est l'instauration de la charia. Il n'y a pas
ce
de doute.
Ce sont des salafistes purs et durs.
Il n'y a pas de doute. Nuancé, parce que dans les rangs, il y a beaucoup de soufis. Donc, pour faire une comparaison qui n'est pas vraiment bonne, mais on va la faire quand même, c'est des talibans très soft. Par exemple, quand j'y étais, on voit les femmes conduire. Les femmes vont à l'université. Il y a mixité dans les parcs, il y a mixité dans les malls. Il y a des malls.
Des centres commerciaux.
Il y a les chrétiens ont des droits, non pas tous les droits, mais ont des droits. Ils ont le droit de restaurer les églises, mais ils n'ont pas le droit de sonner les carillons. Donc, c'est des choses importantes et il faut savoir que vu d'où ils viennent, donc de la nébuleuse djihadiste, faire ces moves, faire ces décisions est très dur et très coûteux pour eux. C'est-à-dire, je vous ai dit, leur religion en chef est utilisée par un kamikaze pour ça. Quand Joulani, par exemple, quand j'y étais, a dissous la police islamique, eh ben, ça lui a coûté parce que les gens disaient comment on dissout la police islamique. Quand ils ont ouvert les malls à la mixité, pareil, il y a des gens qui sont venus tirer sur les malls.
Mais Leïla Vignal, on dit que c'est une alliance contre nature, en quelque sorte, entre l'armée syrienne libre et les djihadistes. Est-ce qu'on peut dire cela? Parce que c'est vrai que c'est une coalition assez hétéroclite.
Et rappeler ce qu'était l'armée syrienne libre.
Alors, l'armée nationale syrienne qui fait partie de cette coalition, en fait, il y a eu deux mouvements qui se sont de fait retrouvés en coalition depuis quelques jours dans cette offensive autour d'Alep. D'une part, Hayat Tahrir al-Sham avec des groupes autonomes, syriens, certains plus ou moins soutenus par la Turquie. Et puis, par ailleurs, une offensive menée et démarrée un peu plus tard menée par l'armée nationale syrienne, qui sont des groupes qui étaient anciennement des groupes de l'armée de l'armée libre syrienne, qui se sont recomposés au cours de ces dernières années et qui sont eux des groupes complètement soutenus par la Turquie. Donc c'est une coalition de fait, profitant de cette fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte, avec une offensive du côté de Hayat Tahrir al-Sham qui était quand même en préparation depuis un certain temps. Mais voilà, cette coalition, c'est une coalition d'intérêts, de fait, d'opportunités
dans ce contexte. C'est pas sûr qu'elle tienne.
Oui, c'est ça. Voilà. Mais alors, quel est le rôle de la Turquie, justement, puisqu'on en parle?
Eh bien, justement, autant THS a une certaine autonomie vis-à-vis de la Turquie, autant l'armée nationale syrienne, qui est faite effectivement d'anciens de l'armée syrienne libre, est vraiment financée par la Turquie. Il faut savoir que quand les États-Unis ont voulu créer cette coalition anti-Daesh, ils sont tournés vers la Turquie. La Turquie a dit, on va vous aider à faire une coalition, on va former une armée de rebelles, alors peut-être de certains djihadistes, etc. Mais on va la former et nous, on est prêts à mettre de l'argent, à former, à envoyer des militaires turcs. Et les États-Unis ont dit non, nous, on travaille avec les Kurdes. Parce qu'en fait, c'était ceux qui étaient le mieux
organisés. Les ennemis jurés des Turcs.
Voilà.
Enfin, du point de vue des Turcs.
Voilà. Et donc, les Turcs ont quand même investi. Et là, c'est un peu un retour. Enfin, on espère pour eux, si on se met dans la tête des Turcs, c'est un retour sur investissement. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ils ont vraiment donné beaucoup à cette armée nationale syrienne. Il y a une sorte de société privée qui s'appelle le Sadat, qui est un peu le Wagner turc.
L'équivalent de la milice Wagner.
Enfin, voilà. Donc, il table beaucoup sur cette armée nationale syrienne.
Et en même temps, la Turquie veut relativiser son engagement. Écoutez son ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan.
Türkiye, istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyecektir. Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye bu yönde gereken tüm katkıyı sağlamaya hazırdır.
Wassim Nas, quel est donc l'intérêt de la Turquie aujourd'hui dans ce conflit?
Je veux dire quelque chose. La fenêtre de tir aussi a été créée par le fait que toutes les missives d'Erdogan vis-à-vis d'Assad ont été. Il y a eu une fin de non-recevoir. La dernière date de quelques semaines, donc de rapprochement. Donc HTS a réussi à ce que les Turcs ferment les yeux sur son offensive. Mais son offensive n'était pas supposée prendre Alep. Ah bon. Donc les Turcs se sont dit, ils vont prendre quelques villages, ils vont reculer devant l'armée syrienne, on va négocier avec une meilleure carte. Sauf que 2 jours plus tard, ils ont pris Alep, et au 3e jour, les Turcs, ils ont envoyé l'armée nationale syrienne, c'est pas seulement pour aider HTS, c'est pour recréer un équilibre. Parce que le rapport entre HTS et la Turquie, c'est un rapport de force. Et s'ils ont fait descendre l'armée nationale syrienne aussi, c'est pour couper la route à quoi? Au retrait des YPG kurdes qui étaient à Alep, sous domination du régime, et de la région de Tal Rifat au nord d'Alep. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entravé aussi les négociations entre HTC, donc les islamistes, et les Kurdes, pour une sortie des Kurdes d'Alep vers les zones tenues par les Kurdes.
On va peut-être un peu vite, on se demande quel est l'objectif quand même, Leïla Vignal, de HTS et de ces mouvements rebelles. C'est de reprendre la totalité de la Syrie, c'est vraiment ça aujourd'hui?
Renverser Bachar al-Assad?
Alors... L'art de la prédiction est
difficile. Ils ne l'ont pas exprimé. Voilà. Ce n'est pas exprimé, les objectifs de guerre.
Voilà. Il n'y a pas de buts de guerre qui ont été exprimés pour le moment. Certainement, d'abord, de sortir de la poche d'Idlib, d'étendre leur extension. Et en fait, une des leçons qui est en train de se dérouler devant nous, c'est le fait que l'armée syrienne est absente. C'est la débandade. Je pense que c'est vraiment une des leçons. Alors, ça ne fait que confirmer des observations qu'on peut faire depuis des années, puisqu'on sait très bien que le régime de Bachar el-Assad ne reste au pouvoir que du fait du soutien de ses alliés russes, iraniens et Hezbollah. Donc, on ne sait pas quels sont les buts de cette coalition, mais très certainement, ils se réclament de la continuation. Ils se présentent un peu comme des héritiers du mouvement révolutionnaire syrien, d'une lutte propre à la Syrie, effectivement, pas du tout dans une perspective djihadiste, mais dans une perspective nationaliste syrienne, avec cette ambition de remplacer le pouvoir de Bachar el-Assad. Et je dirais à ce propos que ce qui est intéressant aussi dans l'expérience de HTS, c'est que dans la poche d'Idlib, ils ne sont pas les seuls, donc ils ont dû apprendre à... travailler en compromis avec d'autres groupes, avec les organisations internationales également, avec d'autres États, et puis à déléguer finalement la gouvernance locale, la fourniture de services aux populations, la gestion du quotidien, l'administration, et donc à apprendre à former des coalitions, des accords, des compromis pour gérer le quotidien des populations.
Ouais, si, il m'a parlé des talibans. En fait, il y a quelque chose qui doit leur occuper la tête aussi. C'est, rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'Afghanistan, le retrait américain. Oui. Or, Trump, au pouvoir, a toujours dit qu'il allait se retirer. Alors, est-ce qu'il va le faire ? Bon, finalement, ils ne l'ont pas fait. Il y a eu une tendance à un moment. Bon, et je pense qu'ils ont envie d'être les interlocuteurs. Ils savent que les talibans étaient... Ah, et pourquoi nous, on ne serait pas les interlocuteurs des Américains ?
Oui, exactement, parce que dans toutes les négociations par rapport à la Syrie qui ont eu lieu, les Syriens étaient absents. Donc là, c'est un vrai coup, un coup de pied que Joulani donne à l'État gelé depuis plusieurs années. Et il devient un acteur important, mais aussi, encore une fois, il faut pas...
On parle
géopolitique, mais il ne faut pas oublier que ceux qui se battent, là, ceux qui reprennent les villages désertés, les villages fantômes, à part Alep, ce sont les déplacés de ces villages. Donc les enfants qui ont quitté avec leurs parents...
3 millions déplacés.
Exactement, qui avaient 10 ans quand ils sont partis des villages, on ne peut pas tous les nommer, et qui retrouvent aujourd'hui leur village, c'est eux qui se battent. Et ça explique aussi la facilité avec laquelle ils sont rentrés dans ces zones. C'est des villes fantômes, utilisées par les milices, et les gens retrouvent leur ville. Donc d'un côté, Joulani soulage Idlib en interne.
Le leader de HTS, je
soulage. La région d'Idlib et l'administration d'Idlib du poids des déplacés. Oui. Moi, je les ai vus, les camps. J'ai visité un camp où il y avait 1,5 million de déplacés. Et en même temps, ils contentent les Turcs qui veulent aussi se débarrasser des réfugiés syriens.
Alors, vous évoquez des populations ou en tout cas une situation qui pourrait... Enfin, vous l'évoquez avec pas mal d'indulgence, cette façon qu'ils auraient d'intégrer le compromis, la politique. Qu'en pensent les populations ? On va se référer à ce qui s'est passé en juin 2014 quand Daesh s'est emparé de la ville de Raqqa pour y établir le califat. Et très vite, la population locale a déchanté, en particulier les femmes.
On n'a plus de liberté là-bas. La liberté est morte à Raqqa. Moi, j'aime vivre libre, m'habiller comme je veux. Là-bas, tout est interdit. On ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. J'espère que l'armée syrienne va les tuer et nous débarrasser de cette saleté. On veut revivre une vie normale.
Cette jeune femme revient d'Alep, obligée de couvrir son visage à nouveau pour rentrer dans Raqqa et de porter ses gants obligatoires.
Je n'ai plus le droit d'étudier à Raqqa. J'ai voulu m'inscrire à l'université d'Alep, mais c'est très compliqué, car pour quitter Raqqa en bus, je dois être accompagnée d'un homme de ma famille en permanence.
Léla Vignal, qu'en est-il de HTS vis-à-vis des populations ? Est-ce qu'elles doivent craindre leur arrivée ou pas ? Les populations civiles.
Écoutez, j'en sais rien, et je ne parle pas avec indulgence particulièrement d'HDS, qui est un groupe islamiste fondamentaliste très, très, très clairement, mais c'est probablement, mais c'est un groupe qui doit apprendre, qui, dans sa gestion de la population d'Idlib, doit aussi prendre en compte cette diversité de la population syrienne, et dans cette reconquête qui est en cours de certains territoires, la population est diverse, la population a des attentes.
Est-ce qu'il les voit comme des libérateurs ?
Je n'ai pas d'informations sur le terrain, on a très peu d'informations, donc là on spécule beaucoup, c'est beaucoup trop tôt. Mais ce qui est certain, et c'est ce que disait le ministre turc, il disait qu'il faut que Assad se réconcilie avec sa population. Je pense que là, il n'y a pas de réconciliation possible, notamment parce que Assad n'a jamais donné signe de volonté de réconciliation, il a bombardé plutôt que réconcilier. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la population population syrienne est très, très hostile à ce régime. Il y a plus d'un million de personnes qui sont à l'extérieur, qui ne reviennent pas pour une raison très précise, hein, qu'ils ne veulent pas retourner sous le joug du régime.
C'est une dictature.
C'est absolument une dictature.
Ça n'a pas changé.
Et puis, depuis plusieurs années, le conflit, effectivement, est à bas bruit, mais il y a des manifestations qui se sont à nouveau réveillées dans tout le pays depuis plusieurs années, des morts, des confrontations. Donc, ce régime est haï. C'est donc aussi dans ce contexte-là qu'il va falloir comprendre ce nouvel acteur qui sort des frontières d'Idlib.
Et Ariane Bonzon, il faut dire que les assaillants ont profité, vous avez commencé à le dire, de la faiblesse des alliés de Damas, hein, la Russie, l'Iran et le Hezbollah, son proxy.
Tout à fait. Ce qui est intéressant, enfin, maintenant, on voit bien que, d'une certaine manière, le roi est nu, enfin, en grande partie pour ce qui concerne l'Iran. Le Hezbollah, qui était effectivement vraiment la force d'Assad, reposait sur le Hezbollah.
10 000 hommes étaient sur place, hein, tout de même, du
Hezbollah. En tout, on considère, on en parlait avec Wassim avant d'entrer, on n'aime pas donner de chiffres. Oui. Il semblerait quand même que tout ce qui représentait les milices, y compris Hezbollah, qui étaient envoyées par l'Iran, si vous voulez, c'était à peu près 50 000 personnes et qui étaient renouvelées tous les 6 mois.
Donc, Hezbollah très affaibli par Israël dans son attaque.
Voilà,
la Russie sur un autre front, celui de l'Ukraine.
L'Ukraine, absolument.
Et l'Iran très attaqué également.
Et c'est ça qui a permis, effectivement. Mm-hmm. Et puis l'armée syrienne, qui est une armée maintenant mal payée. Ils sont fatigués aussi. Il y a aussi une motivation qui a disparu.
Après, par rapport à ça aussi, ça retire à Assad une carte maîtresse dans son retour dans le consort des nations. Il voulait dire, je m'éloigne de l'Iran, je reste tranquille par rapport à la guerre à Gaza au Liban. Et là, donc, Joulani, HTS, a fait la démonstration qu'il est totalement dépendant de l'Iran. C'est quelque chose d'important.
On va l'évoquer tout à l'heure, y compris la position par rapport à la Ligue arabe, mais d'abord la situation économique en Syrie, Anna.
Bah oui, après plus de 10 années de guerre civile, le pays est toujours sous le coup de sanctions économiques américaines et européennes qui ont été dirigées contre le régime. Mais pas seulement, le gouvernement de Bachar al-Assad a fait passer tout un tas de mesures en 2023 qui ont aggravé la situation. Il a supprimé les subventions sur les produits de première nécessité, le pain, le riz, le sucre. Il a augmenté les tarifs de l'essence et de l'électricité et supprimé aussi des aides qui étaient destinées à des centaines de milliers de familles. Résultat, 90% des Syriens vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et dans le même temps, les proches de Bachar al-Assad, dont la première dame, Asma al-Assad, se seraient enrichis en détournant notamment des aides de l'ONU. Et par ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, le régime se finance essentiellement grâce aux recettes du Captagon, recettes illégales, cette drogue de synthèse bon marché qui leur apporte l'équivalent de 10 milliards de dollars par an. Les Ilaviniels, on le sait, ça fait des années que le régime syrien se maintient économiquement parlant tant bien que mal. Mais est-ce que là, on n'arrive pas avec cette offensive à un point de bascule ?
Est-ce qu'on est à un point de bascule du régime syrien ? Ça va dépendre et je pense que voilà, on va en parler aussi des soutiens qu'il peut recevoir parce qu'effectivement, en interne, politiquement... Alors, on continue à parler de régime syrien, d'État syrien comme s'il existait. C'est un État qui n'existe plus puisque le pays est fragmenté, des infrastructures administratives qui sont complètement démantelées, notamment du fait qu'il y a 8 millions de réfugiés à l'extérieur. Hein. Ce sont des fonctionnaires, des médecins, des cadres, des ingénieurs, des enseignants, etc., qui ne sont plus là pour faire fonctionner le pays. Et on l'a vu lors du tremblement de terre, hein, il y avait une difficulté à mettre en place une réponse humanitaire en 2023 du fait de cette absence de cette société civile qualifiée qui est partie. Donc on parle de cet État comme s'il existait encore. En fait, c'est une coalition assez mafieuse, hein, vous l'avez dit, un narco-État, des milices privées, des milices étrangères et une économie qui est absolument exsangue avec une population qui n'a pas de ressources pour survivre.
L'intégration de la Syrie à la Ligue arabe en 2023, est-ce que Bachar al-Assad peut compter sur quelques-uns des membres de cette Ligue arabe pour l'aider économiquement ?
Le but de cette intégration était de l'éloigner de l'Iran. La preuve en est, il est totalement dépendant de l'Iran. Ça veut dire Assad fils n'est pas Assad père. Assad père, les Iraniens avaient besoin de lui pour créer l'Hezbollah, implanter l'Hezbollah au Liban, etc. C'était le Bismarck du Moyen-Orient, comme on disait. Aujourd'hui, la dynamique est inversée. Assad fils est complètement dépendant de l'Iran et du Hezbollah libanais. Donc son retour s'est fait avec cette condition, la condition du Captagon, que ça s'arrête, ça ne s'est pas arrêté. La chasse jordanienne tape les trafiquants avec
Captagon,
les
Captagon, c'est la production du Captagon.
La chasse jordanienne, quand même envoie ses avions de chasse frapper les trafiquants à la frontière. Donc ça n'a pas marché non plus. Et deuxièmement, ceux qui ont ramené Assad vers les pays du Golfe, ce sont les Émiratis. Donc les Émiratis qui ont de très bonnes relations avec les Israéliens. Pourquoi ? Parce que le endgame, la finalité était peut-être que Assad signerait ou participerait à une paix, une pacification dans la région. Et encore une fois, là aussi, il prouve qu'il n'a pas les moyens. Donc c'est vraiment les changements causés par la prise d'Alep sont très importants, mais ce n'est pas pour autant que le régime va tomber.
Ah oui.
Et qu'il n'a pas les moyens et qu'il est aussi un interlocuteur qui n'est pas fiable, parce qu'une des conditions aussi, enfin une des attentes de cette réintégration, c'était aussi une pacification qui permettrait le retour des réfugiés.
Absolument.
Et Bachar al-Assad a prouvé, comme son père, que ce n'était pas un interlocuteur.
Vous vous rappelez les nombres de réfugiés, 3 millions de réfugiés à peu près
Il y a 8
en Turquie, 3 millions et 8 millions au total.
Et les déplacés internes aussi, c'est ça, on n'en parle pas assez.
Ariane Monzon, et les Occidentaux, alors, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas face à un dilemme? Est-ce que soutenir les djihadistes qui pourraient renverser cette dictature, hein, il faut bien le dire, il y a quand même un mandat d'arrêt international lancé par la France contre Assad, ou soutenir mollement Assad pour garder une forme de stabilité dont vous nous dites qu'elle est quand même fictive.
Bah, c'est ça qui est intéressant. Quand on se rappelle 2011, tout le monde appelait à la destitution d'Assad, aux sanctions, il était exclu de la Ligue arabe. Et là, 2024, il y a un certain concert des nations qui dit stabilisation d'abord, attention de ne pas... Parce qu'il y a quand même cette idée de régime change qui effraie tout le monde. Régime change, ça veut
régime
dire...
Change.
Vous savez, c'est cette idée américaine de... On va instaurer la démocratie dans des pays qui sont des dictatures.
L'Irak,
et
etc.
Ça, ça fait peur, évidemment, à tout le monde. Les pays du Golfe, ce qui leur fait peur, c'est l'islam politique, c'est-à-dire... Et alors, l'Iran, par exemple, l'Arabie saoudite, c'est un peu rapproché de l'Iran, mais enfin, c'est quand même ça qui leur fait peur. Et HTS, c'est l'islam politique. Hein. Alors, c'est aussi des salafistes, mais c'est l'islam politique. Donc, il y a effectivement, c'est ça qui est intéressant, aussi avec certains pays européens, mais de façon beaucoup plus prudente, et ils ne se sont pas encore beaucoup positionnés. Il y a en tout cas, de la part des pays arabes, on a l'impression qu'ils sont prêts plutôt à soutenir Assad s'il prend ses distances avec l'Iran.
Ah oui.
Et il faut comprendre à Khan Fidan, le ministère des Affaires étrangères,
turc, on l'a vu tout à l'heure,
qui n'est pas arabe, mais ses propos, c'est ça, c'est qu'il voudrait être, au fond, peut-être celui qui arrive à représenter la voix des Arabes auprès d'Assad. Ils ont un lien, comme l'a dit Wassim, Assad a refusé toute discussion, enfin, il y a eu quelques négociations, puis il a rétropédalé, et en fait, il a fichu une gifle à Erdogan, ce que Erdogan n'aime pas, à Riyad, en novembre, mais les Turcs aimeraient être ceux qui arrivent à convaincre Assad de quitter un peu l'Iran.
Ça, bon, il n'y a pas les moyens de livrer.
À suivre. Si on en croit ce que vous nous expliquez ce soir dans ce débat. Merci à tous les trois d'avoir participé à notre débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.